Le journal vous est présenté par Benoît Bouscarel.
Bonjour à toutes et à tous. 9 morts et 37 blessés graves cette nuit dans le bombardement d'un centre de soins de Médecins Sans Frontières en Afghanistan. Il s'agit visiblement d'une bavure de l'armée américaine dans le cadre de l'intervention de l'OTAN contre les talibans. La frappe était censée soutenir la résistance de l'armée afghane. Joël Brunner est à Kaboul pour France Culture. En Ukraine, dès ce matin, les conséquences sur le terrain du sommet de Paris. Des chars se sont retirés de la ligne de front. Les armes légères et les pièces d'artillerie doivent suivre. Correspondance de Sébastien Gobert. L'Allemagne célèbre aujourd'hui les 25 ans de sa réunification, cérémonie à Francfort où nous retrouverons en direct dans ce journal notre envoyé spécial permanent Cyril Sauvageau. Et puis la visite de Manuel Valls au Japon, elle doit durer 3 jours, orientée sur la culture, l'innovation et l'économie, ce qui n'exclut pas les sujets plus politiques. Correspondance de Frédéric Charles. À Kunduz, dans le nord de l'Afghanistan, la possible nouvelle bavure des forces américaines cette nuit. D'après les témoignages recueillis sur place et les déclarations d'un porte-parole de l'OTAN dans la matinée, tout porte à croire qu'un bombardement américain a touché un centre de soins de Médecins Sans Frontières. L'opération Soutien Résolu, qui a efficacement soutenu ces dernières semaines l'armée afghane contre les talibans, n'est pas exempte de dégâts collatéraux. Et ce bombardement d'un hôpital de MSF qui a fait 9 morts et 37 blessés graves d'après un dernier bilan en est une nouvelle illustration. À Kaboul, les précisions de Joël Brunner.
Le bombardement nocturne de l'hôpital de Kunduz, dirigé par Médecins Sans Frontières, a toutes les chances d'être une bavure de la part des forces de l'OTAN qui soutiennent la progression des troupes afghanes au sol. Un de leurs porte-parole confirmait ce matin que les forces américaines ont effectué une frappe aérienne au cours de la nuit et il a ajouté qu'il était possible que cette frappe ait causé des dommages collatéraux sur un hôpital voisin. Cette possibilité évoquée est d'autant plus probable en effet que l'hôpital a été, au dire du personnel sur place, bombardé et que les insurgés talibans ne disposent pas de l'équipement nécessaire à ce type d'attaque qui nécessite et sous-entend l'implication de l'aviation. La chute de Kunduz aux mains des talibans lundi dernier était la première prise d'une capitale provinciale par les insurgés depuis la chute du régime taliban en 2001 et elle représente une victoire militaire majeure pour le Mollah Mansour, le nouveau dirigeant des talibans qui a officiellement succédé au Mollah Omar début août. Depuis l'annonce de la reprise officielle de Kunduz par les forces gouvernementales jeudi, les combats se poursuivent donc toujours au cœur et autour de cette ville de 300 000 habitants. Et les provinces voisines du nord afghan sont aussi touchées à l'heure actuelle par l'intensification des violences. C'est le cas en particulier dans le Badakhshan à l'est et à Barlan au sud. De quoi faire redouter une contagion des combats à une grosse partie du nord du pays.
Joël Brunner, et le bilan de ce raid mené dans la nuit pourrait s'alourdir. De nombreux patients et membres du personnel manquent encore à l'appel, explique à l'instant MSF. Médecins Sans Frontières qui se dit par la voix de son directeur des opérations, Bart Janssens, profondément choqué par cette attaque. Sur place, le travail des ONG est devenu très difficile, voire impossible. C'est ce que explique Oria Mozadik, spécialiste de l'Afghanistan à Amnesty International. Écoutez-la.
Un nombre très limité d'organisations humanitaires peuvent travailler sur place, y compris le centre médical de Médecins Sans Frontières à Kunduz, qui est le seul capable de soigner les personnes gravement blessées là-bas. La majorité des ONG ne peuvent plus intervenir et sont fermées aujourd'hui. Elles ne sont plus qu'un très petit nombre à pouvoir intervenir sur le terrain. Le gouvernement et les autorités locales ont déclaré que ni les organisations ni les civils ne sont aujourd'hui en sécurité, car les combats continuent entre les rebelles et le gouvernement.
Des propos recueillis par Camille Marigot. En Syrie, les bombardements russes continuent. Cette nuit encore, d'après Moscou, un centre de commandement de l'organisation État islamique a été détruit. Mais là encore, le débat sur l'efficacité des frappes et sur les dommages collatéraux qu'elles peuvent provoquer est ouvert. D'après le ministre britannique de la Défense, cité par la presse outre-Manche ce matin, seulement 5% des raids menés par l'aviation russe en Syrie viseraient des positions de l'organisation État islamique et des pertes civiles seraient là aussi enregistrées. En Ukraine, les conséquences du sommet de Paris hier entre la France, l'Allemagne, l'Ukraine et la Russie se font déjà sentir. Dès ce matin, des armes lourdes ont été retirées de part et d'autre de la ligne de front. Les pièces d'artillerie et autres armes légères vont suivre. S'il reste beaucoup d'incertitudes, la première des décisions s'appliquerait donc apparemment dès aujourd'hui, Sébastien Gobert.
Selon les autorités à Donetsk, oui. Elles ont annoncé avoir ordonné à une colonne de chars de se retirer à 15 km de la ligne de front ce matin. Pour l'instant, il est impossible de vérifier cette information, mais aujourd'hui en fait ne marque que le début d'un processus de 41 jours pendant lesquels les armes de moins de 100 mm, mais aussi les chars d'assaut et les mortiers, doivent être retirés de la ligne de front. Ce processus doit être supervisé par l'OSCE sur une base quotidienne. En fait, cela concrétiserait un cessez-le-feu qui tient déjà remarquablement bon depuis le 1er septembre. Cela étant dit, il reste un grand nombre d'inconnus dans la concrétisation des décisions prises hier à Paris. On ne sait pas encore quand ni comment l'Ukraine peut reprendre le contrôle de sa frontière avec la Russie, c'est l'une des grandes conditions de paix posées par Kiev. Et évidemment, la question politique majeure, c'est celle des élections locales en territoire séparatiste, qui est très loin d'être réglée. François Hollande, hier, a eu beau jeu d'affirmer qu'elle ne pouvait pas avoir lieu comme prévu le 18 octobre à Donetsk, mais les dirigeants séparatistes n'ont tout simplement pas encore officiellement annulé le scrutin. Cela laisse planer un certain suspense. Mais en admettant que les séparatistes jouent le jeu, eh bien côté ukrainien, tout n'est pas gagné. Il faudra adopter une nouvelle loi électorale qui comporte une amnistie pour les séparatistes qui se porteraient candidats. On se rappelle que la dernière fois que Petro Poroshenko a essayé de faire passer une réforme constitutionnelle sur le sujet, eh bien une grenade a explosé devant le Parlement, faisant 4 morts et plus de 140 blessés. Vous voyez, si le retrait des armes légères se fait de manière effective, c'est très positif, mais il reste encore beaucoup d'incertitudes quant à l'instauration d'une paix durable.
Sébastien Gobert. Les corps des victimes iraniennes de la gigantesque et dramatique bousculade de la Mecque la semaine dernière ont commencé à être rapatriés à Téhéran. Au total, la République islamique estime que 464 de ses ressortissants ont péri lors du grand pèlerinage. Et depuis la semaine dernière, la tension est montée de manière soudaine et significative entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, accusés de ne pas prendre ses responsabilités et d'être incapables de faire la lumière sur les raisons de cette bousculade. Aujourd'hui, une cérémonie officielle sera organisée à Téhéran en présence du président Rouhani. Et demain, c'est toute la population qui est appelée à se rassembler. La correspondance sur place à Téhéran de notre correspondant Siavosh Ghazi.
Au total, 104 corps sont arrivés tôt le matin à l'aéroport Mehrabad de Téhéran. Lors de la cérémonie, le président Rouhani a exigé de nouveau la création d'une commission de vérité pour déterminer les causes de la bousculade et identifier les responsables. Alors que l'Arabie Saoudite parle toujours de 769 morts, l'Iran affirme que la bousculade de la Mecque a fait entre 2000 et 4000 morts, dont 464 Iraniens. Selon le ministre de la Santé, les corps de certains pèlerins iraniens n'ont toujours pas été retrouvés. L'Iran a également exigé le retour de tous les corps, contrairement aux autres pays musulmans qui ont accepté que leurs morts soient enterrés en Arabie Saoudite. Cette affaire intervient dans un contexte de tension croissante entre l'Iran et l'Arabie Saoudite et ses alliés arabes sunnites, l'Iran chiite et l'Arabie Saoudite sunnite, s'oppose à propos de la Syrie, du Yémen, de l'Irak, de Bahreïn ou encore du Liban. Riyad a de nouveau montré du doigt l'Iran en annonçant mercredi l'arraisonnement d'un bateau iranien bourré d'armes destiné aux rebelles chiites houthis au Yémen, ce que Téhéran a démenti. De même, Bahreïn, dirigé par une dynastie sunnite soutenue par Riyad, a rappelé son ambassadeur et expulsé le numéro 2 de l'ambassade iranienne à Manama en accusant Téhéran d'ingérence. Téhéran a réagi en expulsant à son tour le numéro 2 de l'ambassade de Bahreïn.
Siavosh Ghazi à Téhéran pour France Culture. L'Allemagne célèbre aujourd'hui sa grandeur, 25 ans tout juste après la réunification de la RFA et de la RDA, c'était le 3 octobre 1990. Il s'agit aujourd'hui de se souvenir de l'histoire allemande et de ce qu'elle nous enseigne. C'est en substance ce qu'a déclaré la chancelière Angela Merkel hier. Devant un problème qui semble insoluble, nous ne devons pas baisser les bras. Une allusion à peine voilée au grand défi qui fait face à l'Allemagne ces temps-ci, l'afflux de centaines de milliers de migrants. D'ailleurs, la cérémonie qui se déroule cette année à Francfort, un thème finement choisi, vaincre les frontières. Bonjour Cyril Sauvageau.
Bonjour.
Notre correspondant permanent en Allemagne. Ce matin, les cérémonies ont débuté dans un lieu hautement symbolique, Cyril.
La Paulskirche, une église considérée comme le berceau de la démocratie allemande, puisque c'est ici que s'est réunie la première assemblée nationale du pays en 1848. Angela Merkel, le président Joachim Gauck, les ministres et dirigeants régionaux des Länder ont ensuite pris part à un office religieux à la cathédrale de Francfort avant de se diriger vers l'opéra de la ville où le président de la République prononce ce midi le grand discours de l'unité allemande. 1 million de personnes sont attendues aujourd'hui au pied des grands gratte-ciel de Francfort au bord du Main pour prendre part aux festivités. Chaque année, l'un des 16 Länder est chargé à tour de rôle d'accueillir la fête. Cette année, c'est donc Francfort et la région de la Hesse. Mais dans toute l'Allemagne, ce 3 octobre est férié, comme chaque année, et des rassemblements, des concerts sont prévus un peu partout ce soir, notamment à la porte de Brandebourg à Berlin.
Cyril, c'est une cérémonie qui est moins fastueuse que celle de l'an dernier quand il s'était agi de commémorer les 25 ans de la chute du mur.
Non, rien à voir avec les 25 ans effectivement à Berlin au mois de novembre. Il faut dire que symboliquement la date du 9 novembre est sans doute plus marquante pour les Allemands. Et peut-être aussi l'Allemagne n'a-t-elle pas vraiment l'esprit à la fête en plein scandale Volkswagen et surtout en pleine crise des réfugiés. Hier soir, plusieurs centaines de manifestants d'ailleurs sont venus à Francfort protester contre le durcissement des conditions d'accueil pour les demandeurs d'asile. C'est vrai que le slogan de ce 25e anniversaire, vaincre les frontières, prend une drôle de signification au moment même où l'Allemagne durcit ses contrôles. Et pour les défenseurs des droits de l'homme, fêter la réunification, c'est aussi se rappeler comment le pays a réussi à relever un immense défi économique, politique, sociétal il y a un quart de siècle. Et ceci au moment où l'Allemagne vit un autre moment crucial de son histoire.
Merci Cyril Sauvageau en direct de Francfort avec Laurent Macchietti pour les moyens techniques. La visite de Manuel Valls au Japon, elle doit durer 3 jours et débute aujourd'hui avec un programme très culturel pour cette première étape à Kyoto où le Premier ministre doit participer avec son homologue Shinzo Abe à un forum consacré à la science et à l'innovation. Mais cette thématique principale n'exclura pas évidemment les sujets plus politiques sur le nucléaire, l'économie, les investissements en Afrique et bien sûr sur la rivalité sino-japonaise. Frédéric Charles.
Le Premier ministre Manuel Valls sait que le plus gros souci du Japon dans le domaine de sa propre sécurité, c'est l'expansionnisme chinois en mer de Chine orientale. Dans une interview au grand journal Yomiuri, publiée le jour de son arrivée au Japon, Manuel Valls dit que la France est aussi une puissance de l'Asie-Pacifique où elle dispose de territoires et de forces militaires. Mais que pour résoudre des disputes territoriales, comme c'est le cas entre Pékin et Tokyo, il n'y a pas d'autre solution que le dialogue. Manuel Valls insiste sur le respect du droit international, notamment la libre circulation de la navigation maritime et aérienne en mer de Chine orientale. Pékin revendique des droits sur la quasi-totalité de cette zone. Les États-Unis et le Japon craignent que la Chine ne cherche à contrôler par la force la mer de Chine orientale, qui est aussi l'une des routes maritimes les plus stratégiques du globe. Dans le domaine du nucléaire, les dirigeants japonais veulent évoquer avec Manuel Valls une entrée possible du groupe Mitsubishi Heavy dans le capital de la branche réacteur nucléaire d'Areva. Mitsubishi est déjà le partenaire du groupe nucléaire français pour le réacteur Atmea. La coopération sur l'Afrique intéresse aussi beaucoup le Japon. Il souhaite mobiliser les entreprises françaises et japonaises sur ce continent à la croissance prometteuse, ne serait-ce que pour ne pas en laisser le monopole à la Chine.
Sur le site d'Eurotunnel, une tentative de passage à pied d'une centaine de migrants cette nuit a été marquée par une agressivité inhabituelle et elle a failli aboutir. Après avoir découpé une clôture et forcé le passage malgré la présence d'agents de sécurité, les migrants se sont introduits dans le tunnel et ont réussi à parcourir 15 kilomètres, ce qui est inédit d'après la société exploitante. 2 gendarmes et 4 migrants ont été blessés. Le trafic a été totalement interrompu dans la nuit. Il reprend progressivement depuis le milieu de la matinée. Les 200 employés du magasin Sephora sur les Champs-Élysées à Paris ont commencé à voter aujourd'hui. Jusqu'au 7 octobre, c'est un référendum qui est organisé dans l'entreprise pour savoir si oui ou non les salariés acceptent les contreparties proposées par la direction pour le travail de nuit. Ces contreparties apparaissent dans 2 accords signés à la mi-septembre, l'un portant sur les magasins qui seront situés dans les futures zones touristiques internationales parisiennes et l'autre spécifique à la boutique des Champs-Élysées. Pour la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC, ces accords peuvent s'appliquer sous réserve des résultats du référendum. Mais pour le CLICP, organisme qui regroupe des syndicats du commerce parisien opposés au travail nocturne, ces accords sont mauvais, dangereux et surtout illégaux. Écoutez Laurent de Gousset du syndicat Sud Commerce.
Tout simplement parce que les contreparties qui ont été négociées sont insuffisantes. Si on prend l'accord qui a été négocié chez le concurrent Marionneau, qui est le numéro 3 du secteur alors que Sephora est le numéro 1, eh bien, on s'aperçoit que chez Marionneau, les heures travaillées entre 21h et minuit sont majorées à 115%, alors que Sephora, elles sont majorées à 100%, tout simplement, ce que prévoit la loi.
Et en quoi cet accord est illégal ?
Il est illégal parce qu'en fait, on est en présence non pas d'un accord, mais de deux accords. Un accord qui est spécifique au magasin des Champs et un accord qui est spécifique aux autres magasins situés en zone touristique internationale. À Sephora, au Champs, on va vous ramener en taxi uniquement à partir de 23h. Ça veut dire que jusqu'à 22h59, vous vous débrouillez. Par contre, dans d'autres magasins, qui pourraient être par exemple des magasins parisiens comme Rivoli, bah, ça sera à partir de 21h. Donc qu'est-ce que ce n'est d'autre qu'une rupture d'égalité entre deux salariés de la même enseigne?
Mais si le référendum remporte comme 95% de votes favorables, comme ça a été le cas chez Marionneau sur les Champs-Élysées au mois d'août, est-ce que vous pouvez aujourd'hui le remettre en cause?
C'est un alibi, c'est même plus qu'un alibi. Là, en l'occurrence, ce que recherche Sephora, c'est un plébiscite qui va être savamment organisé. C'est de la com, c'est la campagne en permanence, à tel point d'ailleurs que les salariés ne veulent plus entendre parler du référendum le dimanche ou de la nuit. On travaille les esprits, quoi.
Des propos recueillis par Annabelle Grelier. Les résultats de cette consultation seront connus dans la journée de mercredi. Le soleil se fait plus rare cet après-midi sur la France, sur le centre et l'est, ainsi que sur les côtes méditerranéennes. Ce sera un temps pluvieux. 6 départements sont en vigilance orange pour risque d'inondation de la Drôme jusqu'aux Bouches-du-Rhône.